êtes sur la pleine lune, 93.8 MHz, dans notre émission de ce soir, Martine Chaponnière, docteur Martine Chaponnière, puisque nous allons parler de sa thèse « Devenir ou redevenir femme, le statut comparé de l'éducation dans l'ancien mouvement féministe et le nouveau mouvement féministe en Suisse ». Mais pour nous mettre dans l'ambiance, Chantal Grim nous chante « Apprentissage ».
Ça s'éteint. On se mettait du noir sur les cils et on enfilait des bas fins. Comme on disait que les filles sont gentilles, ne sont pas. On cultivait son apparence et l'on ne pensait plus qu'à ça. On cultivait son apparence, on ne pensait plus qu'à ça. Comme on nous disait que les dames ont un crâne sans cerveau, on s'arrêtait de réfléchir pour ne dire que des mots. Comme on disait que les dames ont une âme et pas de génie, on faisait tout pour être bête et l'on sécrétait son ennui. On faisait tout pour être bête, on sécrétait son ennui. Comme on nous disait que les mères, leur affaire, c'est le nid. Ce qui sortirait de nos ventres serait le centre de nos vies. Comme on disait que les mères doivent tout faire par amour. Et sacrifice à son fils tous les jours. On raconterait ses sacrifices à son fils tous les jours. Comme on nous disait que les dames font un drame de vieillir. On avait peur devant la glace de sa face à venir. Que les dames se condamnent à l'abandon. On en devenait tracassière et amère en prévision. On en devenait tracassière et amère en prévision.
La pleine lune à 93.8 MHz sur Radio Zone. Cause toujours, tu m'intéresses. Ce soir, nous recevons Martine Chaponnière. Martine Chaponnière, vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue sur les ondes, puisque chaque mois, elle nous présentait le journal Femmes Suisses auquel elle participe. Auquel elle a participé longtemps. Et donc, vous la connaissez, mais nous la recevons ce soir un peu de façon spéciale. Nous sommes d'ailleurs presque intimidés, puisque premièrement, Martine a écrit une thèse. Et bon, déjà, nous sommes très contentes qu'elle soit là, parce qu'on aime bien Martine. On trouve qu'elle dit des choses très intéressantes et très bien. Elle a écrit sa thèse, qu'elle a soutenue dernièrement à l'Université de Genève, à la faculté de psychologie et de pédagogie, sur le thème « Devenir ou redevenir femme ». Alors, c'est tout un programme et c'est en fait une comparaison du mouvement féministe suisse des débuts du siècle et du mouvement féministe suisse des années 80 sur le thème de l'éducation. Et puis, moi, j'ai un troisième motif d'être contente de te recevoir, c'est que cette thèse est une thèse franchement féministe qui a été soutenue dans une institution bien assise, qui est l'Université de Genève. Et je trouve passionnant et intéressant que soient soutenues des thèses féministes, qu'on ose s'affirmer féministe dans un milieu comme l'université, où en général les attitudes militantes ou sont condamnées comme partisanes, subjectives, au nom d'une certaine scientificité qui repose dans l'université. Alors, comment ça, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi de faire cette thèse ?
Bon, je commencerai par dire que c'était impossible pour moi de pas faire une thèse féministe. Je crois que ça fait partie de ma personne et de mon être depuis 20 ans maintenant. Enfin, je suis de cette génération de mai 68 qui a vécu le mouvement féministe et finalement que le mouvement féministe a forgé. Et j'ai payé un prix d'ailleurs assez cher pour ça. Mais enfin, je ne peux pas me renier comme féministe, je crois, même si je le voulais. Alors, ça présente en revanche un certain nombre d'ambiguïtés, parce que je crois que personne n'est jamais content, au fond, avec les féministes. J'ai eu des critiques de la part de certaines de mes camarades féministes qui m'ont dit « Au fond, je regrette que ta thèse n'ait pas été une thèse plus militante ». Or, moi, je trouve que c'est une thèse militante. Et puis, j'ai également eu des critiques de la part du corps académique regrettant que la thèse soit trop militante. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que j'ai également eu des critiques auxquelles je ne m'attendais pas du tout dans le sens inverse, à savoir des critiques du corps académique qui me disaient que j'aurais dû être plus militante. Alors là, où s'arrêtent et où commencent les contradictions? Et ça, j'ai trouvé très difficile parce que finalement, quoi que j'ai fait, on me reprochait d'avoir fait ce que j'avais fait. En général, dans une thèse, on vous reproche toujours de ne pas avoir fait ce que le prof aurait voulu que vous fassiez. Moi, c'est complètement l'inverse. On m'a reproché d'avoir fait ce que j'ai voulu faire, à savoir une thèse que j'estimais militante et qui a été de temps en temps considérée comme non militante, de temps en temps considérée comme militante. Cela dit, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que je crois que le caractère scientifique de la thèse n'a jamais été remis en cause par personne. Bon, ça veut dire aussi qu'est-ce que c'est que quelque chose de scientifique. Et je dirais que quelque chose de scientifique est quelque chose que n'importe qui pourrait réfuter en disant ce que vous dites est faux parce que. Et il aurait les armes pour dire pourquoi c'est faux. Et dans la thèse, c'est le cas. On peut dire « je ne suis pas d'accord ».
D'ailleurs, tu commences l'introduction en disant que cette contribution, ça fait partie de la constitution d'une mémoire des femmes. Là, je te lis, cette thèse est une contribution personnelle à un effort collectif. Donc, de retrouver ou de chercher, d'identifier un quoi. Et là, on en viendra au corps de ta thèse. Donc, tu as fait ce choix de comparer ces deux moments du mouvement féministe, le début du siècle et les années 80, par rapport à un thème qui est l'éducation.
Oui, l'idée, en fait, m'est venue de nouveau à cause de mon parcours militant, là, je dirais. Enfin, deux choses, mon parcours militant et mon parcours académique. Je suis dans la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation et je suis en sciences de l'éducation. Donc, de toute façon, pour moi, l'éducation était incontournable. Et puis, ce dont je me suis rendu compte, que j'ai trouvé quand même très intéressant, c'est que le thème de l'éducation était incontournable dans le féminisme. Et j'en avais jamais pris conscience à tel point. Je m'en étais rendu compte dans ce que j'appelle l'ancien mouvement, le mouvement du début du siècle. Et au fur et à mesure que se construisait ma thèse, je me rendais compte que c'était aussi un point central du nouveau mouvement. Mais nous, les nouvelles, on n'a pas tellement mis l'éducation au centre de nos débats, de nos discours, etc. Alors j'ai dû reconstruire, disons, comment a été construite notre conception de l'éducation. Et donc ça, c'est sur le plan académique. Et puis sur le plan militant, tu as rappelé tout à l'heure que je travaillais et je travaille toujours dans le journal Femmes Suisses. Et comme j'ai été présidente, parce que le journal Femmes Suisses a été fondé au début du siècle, donc on a toujours des titres extrêmement ronflants que nous avons gardés. Et j'étais présidente du journal, je ne le suis plus. Mais j'avais à ce titre-là les archives du journal à la maison et les numéros. Et j'ai horreur de travailler en bibliothèque, ce qui fait que ça a été un gros élément pour moi de pouvoir m'amuser à regarder les journaux. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une évolution extraordinaire par rapport à l'éducation. Et ça, c'est le côté militant qui me faisait avoir envie d'aller voir comment ça s'était passé avant nous. Donc, c'est la conjonction de ces deux choses qui m'a amenée à ce sujet.
Alors, c'est ce qu'on appelle les préliminaires. Tu te dis féministe, donc tout à fait partie prenante de ce mouvement féministe des années 80. Quel est ton rapport avec ces grands-mères?
C'est un rapport, de nouveau, là, ambigu. J'ai eu un rapport très fort d'identification avec certaines d'entre elles, et en particulier avec la fondatrice du journal, qui est Émilie Gour. J'adore Émilie Gour. Je trouve que c'est une femme remarquable, et j'ai fait un... Pour essayer de faire sortir un peu les recherches universitaires de l'université, j'ai fait une fois une lecture spectacle avec des comédiennes et une metteuse en scène pour présenter Émilie Gour au public genevois. C'était un 8 mars. Et parce que je trouve que c'est une femme courageuse et qui mérite d'être mieux connue. Alors, ce type de suffragiste, parce qu'elle était la suffragette assez typique, je me retrouve beaucoup dans cette personne combative de la bourgeoisie, comme moi, de tout ce milieu protestant, libéral, qu'elle a pas rejeté par-dessus bord et qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir sur comment négocier mes origines. Et j'ai une sympathie énorme. Et puis, il y a toute une autre partie du mouvement qui m'agace énormément et qui est tout ce mouvement très charitable, très altruiste, mais dont nous héritons aussi d'une certaine manière. Et alors que je trouve beaucoup plus difficile à revendiquer comme grand-mère. Et pourtant, elles sont bien nos grand-mères aussi. Je crois que c'est l'ensemble du mouvement qui a donné notre mouvement. Mais je me sens évidemment beaucoup plus proche des suffragistes.
Alors, on va peut-être en venir maintenant justement à ta thèse. Alors, elle commence par décrire les postulats de base de cet ancien mouvement. Alors, avant d'entrer dans le corps du problème de l'éducation, tu essaies de décrire un peu quels étaient ces postulats. Alors, tu parles de féminisme moral, de féminisme de réarmement moral, de justice, de complémentarité.
Mm-hmm. Alors, j'ai essayé de... étant donné toutes ces composantes différentes du mouvement dont je parlais tout à l'heure, là, en ce qui concerne l'ancien mouvement, à la fois la composante suffragiste, la composante altruiste, la composante pédagogique, etc., c'était quand même une mosaïque, hein, le mouvement. J'ai essayé de voir ce qui faisait qu'on pouvait parler du mouvement féministe, parce que c'est bien de ça dont elle parlait. Elle parlait du mouvement féministe. Et j'ai essayé de voir ce qui réunissait tout ça. Et puis, je me suis rendu compte, j'ai dégagé des lectures que j'ai faites, qu'il y avait trois postulats de l'ancien mouvement qui réunissaient toutes ces femmes. Et ces trois postulats, au fond, je crois que toutes les féministes y croyaient, dur comme fer, comme nous croyons aujourd'hui à un certain nombre d'idées. Et est-ce que je les énumère peut-être, les postulats? Enfin, je les...
Oui, je pense
rapidement.
Que...
Alors, le premier postulat concerne la nature féminine. Là, c'est très intéressant. On voit vraiment qu'elles étaient convaincues qu'il y avait une nature féminine qui était fortement influencée par la potentialité de maternité, et dès lors que cette nature féminine était caractérisée par les qualités dites maternelles. Ça, c'était le premier postulat, et que puisqu'il y avait une nature féminine, il y avait des rôles féminins, naturels aussi, qui étaient réservés aux femmes. Le deuxième postulat que j'ai relevé concerne l'éducation, c'est-à-dire que pour que les femmes puissent remplir adéquatement ce rôle qui leur était imparti, l'inné et la nature ne suffisaient pas. Il fallait encore l'éducation par-dessus pour leur permettre de cultiver ces qualités. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un paradoxe dans l'ancien mouvement, c'est qu'à force de dire que les femmes étaient faites pour être mères, il y a eu toute une énorme batterie mise en place pour leur permettre d'assumer ce rôle adéquatement. Alors, ou elles étaient faites pour être mères et il n'y avait pas besoin de les éduquer pour ça, ou elles n'étaient pas faites et à ce moment-là, l'éducation intervenait. Mais elles n'ont jamais vu ce paradoxe. Alors ça, c'était le deuxième postulat. Et puis le troisième postulat revient plus du côté des suffragistes, mais aussi du côté des altruistes, c'est la question de justice, c'est-à-dire la satisfaction des revendications est une question de justice. Et là aussi, il y a un paradoxe, dans la mesure où elle disait il est juste que nous ayons le droit de vote, c'est une question de justice. Et parallèlement, elle disait tout le temps, mais nous devons mériter ce droit de vote. Nous devons prouver que nous sommes capables de, de l'avoir et nous devons le mériter. Alors, où c'est une question de justice et il n'y a rien à mériter, ce qui est mon point de vue, mais qui n'était pas le leur, où ça n'est pas une question de justice et on le mérite.
Qu'est-ce que tu appelles le féminisme altruiste ?
Alors, c'est toute cette partie du féminisme qui s'occupait, qui était composée de femmes qui étaient très sensibles à la condition des autres femmes, par solidarité féminine, je crois, et qui avaient pris en main le destin des femmes pauvres, des femmes des femmes d'alcooliques plutôt, parce que l'alcoolisme féminin ne se posait pas tellement, mais l'alcoolisme masculin était un des grands problèmes du début du siècle. Et ces femmes voulaient, ces femmes de la bourgeoisie, voulaient, en avaient absolument plein le dos d'être chez elles et avaient trouvé ce moyen absolument extraordinaire de sortir de chez elles tout en gardant une respectabilité en aidant les autres. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit par exemple qu'elles organisaient des crèches ou des garderies ou des choses comme ça le samedi après-midi pour les ouvrières. Pas pour que les ouvrières puissent se reposer, mais pour que les ouvrières puissent faire leur ménage le samedi après-midi pendant que les enfants étaient loin. Il y avait comme ça ce côté de purifier la société. Et étant donné ce premier postulat dont je parlais de la nature féminine et de ses qualités maternelles, il y a une idée de pureté. Les femmes vont régénérer la société parce qu'elles sont pures, alors que les hommes sont contaminés par le social. Les femmes sont restées comme des enfants. Idée qu'on a encore un peu aujourd'hui, hein, c'est ce que je discute dans la dernière partie de ma thèse. Et elles voulaient purifier un peu la société à travers leur action altruiste, justement.
Et elles se retrouvaient coude à coude avec les suffragistes, par exemple ?
Oui, alors pour beaucoup, oui, parce que beaucoup sont venus au suffragisme par l'action altruiste. Parce que l'idée était qu'elles se rendaient compte qu'au fond, ça n'était qu'une goutte d'eau dans la mer que d'aider trois pauvresses, disons, à aménager leur logement, que sais-je, ou à vivre moins misérablement. Et elles se rendaient compte petit à petit qu'il fallait plus que ça et qu'en particulier, il fallait qu'elles aient un droit de décision. Et le droit de décision, c'était le droit de vote. Alors, beaucoup sont venus au suffragisme à travers l'action altruiste. Mais le premier pas, la plupart du temps, ce qui leur était permis, hein, socialement aussi, c'était cette action altruiste.
Alors, on voit bien que, à travers ces trois postulats, l'éducation sort comme un moyen d'action extraordinaire, puisque c'est par l'éducation qu'on va apprendre aux femmes de bien remplir leur rôle de mère, de citoyenne, d'épouse,
de femme,
d'apprendre l'hygiène, d'apprendre à faire son ménage.
Alors,
donc, l'éducation de vie est un point central.
Absolument. Il n'y a pas une revue, il n'y a pas un congrès, il n'y a pas une manifestation féministe de l'époque. Et là, je parle pendant les grandes années du féminisme, disons jusqu'aux années 30. Après, il y a eu une baisse. Hein. Mais il n'y a pas une manifestation où l'éducation ne figure pas au centre des préoccupations. Il y a vraiment...
Mais c'est une éducation spécifique aux femmes.
Alors, oui, il y a deux types d'éducation. Il y a l'éducation spécifique aux femmes, justement pour leur permettre d'accomplir leur rôle. Et puis l'idée était toujours, il faut éduquer les femmes pour leur permettre d'accomplir leur rôle, parce que si elles arrivent à bien accomplir leur rôle dans le foyer, elles arriveront aussi à l'accomplir à l'extérieur. Donc il y a toujours les deux. Et puis il y avait aussi la revendication de l'éducation professionnelle, hein, et de l'éducation dans l'école. Il y a vraiment deux types de revendications. Je dirais pas une éducation égalitaire, mais une éducation, un bagage, comme elle disait, pour si jamais il se passait quelque chose dans la vie, pour si elle restait célibataire, au drame, et ce genre de situation. Et puis, une éducation pour remplir leur rôle de femme.
Mais il n'y a pas, parce que tu l'évoques pas dans ton livre, mais je sais par exemple qu'aux États-Unis, finalement, l'éducation ménagère, elle a été parallèle au fait que à la suppression de la domesticité. finalement, les esclaves, les bonnes, n'étaient plus disponibles.
Oui.
Donc, pour une certaine classe sociale, il s'agissait d'apprendre, finalement, à faire tous ces travaux qui étaient accomplis avant par les bonnes ou par les esclaves. Alors, tu parles pas du tout de cet aspect. Est-ce que cet aspect
si, j'en
est
parle.
Aussi...
j'en parle. Alors, il t'a échappé parce que j'en parle aussi, parce que c'est important, en effet. C'est au moment de la crise de la domesticité qu'on veut former, il y a une double préoccupation. Hein. Il y a d'une part la préoccupation de former toutes les femmes à être de bonnes ménagères parce qu'elles n'auront plus de bonnes. Ça, c'est la première chose. Et il y a la préoccupation de former des bonnes parce qu'on n'en trouve plus. Je dis bonnes exprès. Hein. Et il y a cette double préoccupation et les deux choses vont ensemble, mais ce n'est pas la même chose. C'est la même éducation qu'on leur fournit, en fait, c'est-à-dire un programme invraisemblable avec 12 000 mots que je ne connaissais même plus. Le ravaudage des chaussettes, ça je connais, mais il y a 12 000 mots beaucoup plus subtils encore sur la tâche de bonne ménagère que je ne connaissais même plus. C'est la grande période de l'avènement de l'autocuiseur aussi, où on voit le seul terme d'autocuiseur, on voit vraiment la crise de la domesticité. Mais alors c'est la même éducation, mais pour deux buts différents. Former de bonnes et former de bonnes ménagères parce qu'il n'y a plus de bonnes bonnes.
Et puis alors l'autre partie, c'est pas seulement ménagère, c'est prendre un savoir aussi pour pouvoir le transmettre à ses enfants.
Alors oui, c'est
une bonne mère,
absolument,
bonne
exactement. On partait de l'idée que la mère était une éducatrice née. De nouveau, ça fait partie de la nature féminine, cette fameuse nature féminine étendue de la potentialité de maternité, c'est qu'elle est née pour éduquer. Donc, on éduquait la femme à être une bonne éducatrice pour transmettre son savoir à ses enfants. Et c'est très marrant de voir que déjà dans les années 20 et dans les années 30, ça n'est qu'une grande complainte sur le fait que les mères ne sont plus des mères et n'éduquent plus leurs filles à être de bonnes mères et de bonnes ménagères. Moi, j'ai entendu ça de mon temps, comme quoi nous, jeunes filles, nous n'étions plus éduquées et qu'on ne savait plus rien faire à la maison et qu'on ne savait plus faire cuire un œuf. Mais en fait, le discours est très vieux. Donc, on comptait beaucoup sur les mères pour éduquer les filles et les garçons à de nouveau purifier, régénérer la société.
D'ailleurs, c'est un discours très vieux, mais qui est toujours repris. Je ne sais pas si tu as vu l'avant-dernier calendrier de l'UNESCO qui donne comme mot d'ordre « éduquons les femmes parce que c'est elles qui s'occupent des enfants. Si les femmes sont éduquées, il y aura moins d'enfants morts, il y aura moins de malnutrition, il y aura
tout à fait.
Moins de pauvreté. »
Et c'est un discours qui est vieux parce que dans mon cours à l'université où j'ai l'occasion de repasser le discours sur l'éducation depuis plus longtemps que ça, déjà au XVIIe siècle, Fénelon disait « il faut éduquer les femmes parce que c'est elles qui éduquent les filles ». Autrement dit, et j'étais très frappée quand j'ai travaillé dans une organisation internationale non gouvernementale justement qui s'occupait de protection de l'enfance, qu'on éduquait les femmes que parce qu'elles étaient des mères. On les éduque jamais pour elles, jamais.
Mais tu dis quand même que dans ce mouvement, il y a aussi ce besoin d'éducation pour elles-mêmes.
Oui, alors là, oui, en particulier si il se produit le grand malheur qu'elles ne trouveront pas de mari et
d'accord.
Donc qu'elles devront se suffire à elles-mêmes. Là, c'est important. Et on les éduquait aussi par rapport à l'altruisme. Ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait les éduquer pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants. Et aussi, il y avait cette idée qui est très intéressante à observer, c'est qu'il fallait absolument qu'elles puissent sortir de leur famille étroite. Et à ce moment-là, on agrandissait la famille au monde, ou enfin à la société en général. Donc ça veut dire que non seulement il fallait qu'elles puissent éduquer les enfants, mais également faire profiter les autres. Alors, c'est-à-dire le neveu orphelin, l'oncle infirme et autres handicapés divers de leurs capacités, et puis ensuite le reste de la société.
Alors concrètement, ça s'est concrétisé comment ? Est-ce qu'il y a eu des ouvertures d'écoles ? Est-ce que l'éducation était obligatoire pour toutes les petites filles dans des écoles publiques ? Quels ont été les points acquis ?
Alors, étonnamment, donc les premières, sur le plan purement scolarisation formelle, le premier gain a été la possibilité pour les femmes d'entrer à l'université. Ça a commencé par le haut. Avant, il y a eu une éducation primaire obligatoire pour les petites filles, mais ensuite, il y a eu une sorte de trou avec l'école secondaire et la formation professionnelle. Et puis les femmes, comme c'était des femmes au fond de la bourgeoisie, qui étaient d'un milieu social qui leur aurait permis d'aller à l'université, comme par hasard, les premières revendications qui ont marché, c'était celle de l'entrée à l'Uni. En plus, ce n'était pas bien dangereux, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient la matu, qui pouvaient entrer, n'est-ce pas ? Alors, sur ce qui a été acquis, c'était l'entrée à l'université. Et puis, ce qui a été alors revendiqué avec une force qu'on arrive à peine à croire aujourd'hui, et ça, par toutes les tendances du mouvement, les suffragistes, comme celles que j'appelais les altruistes, les pédagogiques, etc., c'était la revendication d'une éducation ménagère. Et d'une éducation ménagère obligatoire pour les filles, alors selon 12 000 modalités selon qui proposait l'éducation ménagère, quel âge, quelle classe, etc.
Donc c'est à partir de quelle année que l'éducation ménagère obligatoire a été introduite ?
Alors ça dépend des cantons.
Genève par exemple.
Je ne sais pas pour Genève, je ne me souviens pas. Il y a eu simplement au moment où il y a eu une massification de l'éducation non obligatoire des filles, hein, c'est-à-dire à partir de 15 ans. C'est à partir de 15 ans qu'on a ces programmes différenciés. Et la couture a toujours fait partie du programme, au fond du programme des filles. Mmh. Mais en Suisse allemande en particulier, c'était comme ça existe encore aujourd'hui d'ailleurs, ces cours ménagers ont été introduits sur l'insistance des féministes. Alors ça, il y a plusieurs cantons qui ont introduit ça dans les années 30 déjà. Mmh.
Yeah.
Pleine Lune dans le 3.8 MHz. Ce soir, dans Cause Toujours, tu m'intéresses. On cause beaucoup avec Martine Chaponnière qui nous parle de sa thèse. La comparaison du mouvement féministe du début du siècle et des années 80 sur le thème spécifique de l'éducation, qui est un des points forts quand même qui a traversé tout le mouvement féministe et qui continue encore à être une des grandes préoccupations. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 50 40 51 41 023 depuis Genève et 033 depuis Nyon. Et puis, on écoute maintenant un groupe vocal assez exceptionnel et spécial qui s'appelle Nomade.